Chapitre 2. Jean ne quitta point son père et Catherine sans de vifs regrets. Mais l'espoir de se faire un état qui put assurer un jour son affranchissement adoucit l'amertume de cette séparation. Il s'arracha donc courageusement à leurs embrassements et prit la route de Tours. Jusqu'alors, il ne s'était jamais écarté de son village. Et tout ce qui frappait ses regards le long de la route était nouveau pour lui. Mais ce fut bien autre chose lorsqu'il atteignit les faubourgs de la ville. Il rencontra d'abord une longue cavalcade d'enfants qui en sortaient. Un mercier auquel il s'adressa lui apprit que c'étaient les maîtres qui promenaient leurs écoliers à cheval, comme il est d'usage le jour de la Saint-Nicolas. Un peu plus loin, il aperçut deux fous, reconnaissables à leurs cheveux rasés, qui étaient enchaînés à la porte d'un médecin traitant la folie comme une sorte d'enseigne vivante. Il vit également des gentilshommes qui passaient en portant au poing des éperviers ou des faucons, tandis que les bourgeois, pour les imiter, portaient des merles et des perroquets. Les costumes eux-mêmes étaient différents de ceux qu'il avait coutume de voir. C'étaient des souliers dits à la poulaine, dont la pointe recourbée se relevait jusqu'à la hauteur du genou, des bonnets de drap fourrés de martre ou de menu vert, et des habits mi-partis. Quelques seigneurs, des plus élégants, portaient deux épées, l'une à droite et l'autre à gauche. Enfin, Jean arriva, non sans peine, à la boutique de Maître Laurent. Celle-ci n'était pour le moment qu'une baraque en planches de peupliers dressée sur des lys, car la grande foire de Tours venait de commencer. Maître Laurent était un petit homme de manière ronde, toujours riant, mais retors comme trois manceaux et un normand. Il commença par conduire Jean dans son arrière-boutique, mit devant lui un pot de vin nouveau, une miche de pain de seigle, un reste de pied de bœuf, et puis il lui demanda son histoire. Le fils de Thomas raconta sincèrement tout ce qui le concernait, sans oublier la dernière affaire qu'il avait amenée à Tours. Laurent l'écouta en poussant des exclamations à tout propos, ôtant son bonnet pour le remettre, et riant sans en avoir envie. Enfin, quand il eut achevé, « Fort bien, dit-il, je vois ce que c'est, genre tu es un héros. Hé, hé, il n'y a pas de mal à ça, là, mon petit. Tu pourras rosser de temps en temps les garçons de mes confrères qui font les insolents. Je ne ferai jamais semblant de m'en apercevoir. Hé, hé, hé. Seulement, prends bien garde d'être pris pour dupe ou de violer les règlements de la foire. Les règlements doivent être choses sacrées pour nous autres marchands, d'autant qu'on ne peut les enfreindre sans payer une amende. Hé, hé, hé. J'ai rédigé là un cahier pour ce que doivent savoir mes commis. Il faut que tu l'apprennes par cœur. » En parlant ainsi, Maître Laurent ouvrit un tiroir d'où il tira un manuscrit qui avait été bien souvent feuilleté, si l'on en jugeait par le bord des pages salies et frangées. Jean y trouva une sorte de catéchisme mercantile dans lequel le drapier avait réuni les principales instructions nécessaires à sa profession. Il vit qu'il y avait à chaque foire des inspecteurs des marchandises, des poids et de l'argent. Un tribunal composé de prud'hommes qui jugeait immédiatement toutes les contestations et un grand nombre de notaires spéciaux chargés de rédiger les actes de vente et d'achat. Ces actes avaient certains privilèges particuliers provenant de la foire à laquelle ils avaient été dressés. Enfin, des gardes, assistés de 100 sergents, étaient chargés de maintenir la paix et d'arrêter les voleurs. Il vit en outre que l'argent ne pouvait être prêté, même dans le commerce, à plus de 15%, et que le marchand qui appelait un acheteur, lorsque celui-ci se trouvait moins près de sa boutique que de celle d'un confrère, était mis à l'amende. Venaient ensuite des renseignements sur les différentes espèces de draps, sur les moyens de les faire paraître avec avantage et sur les prix auxquels on devait les vendre. Lorsqu'il eut achevé de lire, Jean demanda si c'était tout. « Ben, c'est tout ce que l'on peut écrire, garçon, répondit Maître Laurent. Mais il y a outre cela le fin du métier. Il ne suffit pas d'avoir des musiciens et des grimaciers pour attirer la pratique comme nous en avons tous. Il faut encore que les commis sachent vanter leurs marchandises, substituer au besoin un drap plus léger à un drap plus fort et faire compter la lisière dans l'aunage. Mais ce sont là de coupables tromperies, objecta Jean. Maître Laurent fit un mouvement des épaules. « Oh, quand on se trouve avec les pourceaux, il faut bien se passer des quelles, dit-il. Crois-tu que l'on soit plus scrupuleux à notre égard? Nous avons des débiteurs qui, après s'être habillés à crédit, se réfugient dans une église et nous n'avons même pas le droit de saisir leurs meubles. D'autres, qui après nous ont fait les cédules, les passent à des gens puissants qui nous menacent de toutes sortes de mauvais traitements si nous ne consentons pas à réduire nos créances du tiers ou de la moitié. Et je te parle pas des fripons qui laissent mettre un drapeau sur leur pignon et s'enfuient avec notre argent. Mais vous ne pouvez donc vous faire rendre justice? Mais la justice se rend toujours contre nous, garçon, par la raison que les juges sont nobles pour la plupart et que la noblesse est l'ennemi naturel de la bourgeoisie. Les serfs se plaignent, mais ils sont moins persécutés que nous. Le Seigneur les ménage généralement comme une chose à lui, tandis qu'il nous traite comme des prisonniers qui lui ont échappé. Il semble que notre indépendance soit un vol fait à son autorité. Aussi Dieu sait que de déni de justice, de manque de foi, de texte et d'amende. Les plus honnêtes gentilshommes ne regardent l'or qu'ils peuvent soutirer à des bourgeois que comme une quelle restitution. Mais du moins, vous êtes libre. Oui, oh, à condition de nous soumettre aux lois de notre corporation, de subir les règlements de la commune, d'obéir aux ordres du Seigneur dont nous sommes les vassaux. Notre liberté, vois-tu, ressemble à celle du soldat qui doit garder les rangs, porter ses armes d'une certaine façon et obéir à tous ses officiers. « Ah, vous avez raison, maître, la vraie liberté ne peut être que là où il y a une seule loi pour tous, et une loi qui ne défende que ce qui nuit au plus grand nombre. Aussi sommes-nous obligés de ruser, reprit Laurent. Ne pouvant aller droit en avant, nous serpentons entre les règlements et les privilèges. Nous cachons notre argent, nous faisant petit quand les maîtres n'en ont pas besoin. Pour le montrer et devenir exigeant le jour où il en manque. Travaille, Jean, travaille, sans regarder à la fatigue, et tu nous aideras un jour à faire à la noblesse cette guerre en dessous. Dans 10 ans, si tu le veux, tu peux être des nôtres. » Jean ne répondit rien, mais baissa la tête tristement. Ce qu'il avait désiré, ce n'était point cette indépendance restreinte, sournoise et disputée de Maître Laurent. C'était le plein et libre exercice de ses facultés. Le prétendu affranchissement du drapier lui répugnait autant que sa morale, et il comprit tout de suite qu'il n'était point né pour être marchand. Cependant, l'aspect qu'offrait la grande foire qui venait de s'ouvrir à Tours excita d'abord en lui une sorte d'admiration. Les relations étaient encore à cette époque trop difficile et trop irrégulière pour que le commerce eût acquis de la substabilité. Chaque ville n'avait point cette variété de marchands que nous y voyons maintenant. Le colportage, utile seulement aujourd'hui pour les hameaux, était alors général. Les grands centres de population n'étaient fournis des objets les plus nécessaires qu'à certaines époques où les marchands s'y donnaient rendez-vous. Ces foires, transformant les villes où elles avaient lieu en véritables entrepôts de commerce, étaient favorisées par les municipalités, qui faisaient les plus grands sacrifices pour attirer les trafiquants. Quelques-unes allaient jusqu'à entretenir sur les chemins des troupes armées, chargées de donner aux marchands aide et protection contre les routiers ou coureurs de poules, alors fort communs. La foire de Tours, sans être une des plus importantes de France, attirait pourtant un nombre considérable de commerçants étrangers. Leurs boutiques, ornées de drapeaux, étaient pleines de bateleurs dont les tours attiraient les curieux. On y voyait les tapissiers d'Arras, les drapiers de Sedan, les confituriers de Verdun, confisant au miel pour les boulangeois, au sucre pour les gentilshommes, les gantiers d'Orléans vendant les célèbres gants de moufle, de chamois, brodés et fourrés de martre, pour porter le faucon au prix de 9 livres, c'est-à-dire autant que 12 setiers de blé. On y rencontrait également des Italiens vendant des belles armes de Milan et des Allemands de mauvaises armures de leur pays. Puis venaient les apothicaires, cédant au poids de l'or le suc des cannes à miel et l'eau de vie. Les cordonniers avec leurs 1000 chaussures de cuir de Montpellier, les libraires avec leurs manuscrits enrichis de miniatures, recouverts de velours, de vermeil, de pierreries, et dont un seul pouvait coûter 1000 livres. Les méridionaux étalant leurs riches soieries brochées d'argent, d'or, de perles. Les orfèvres avec leurs dressoirs étincelants de coupe, de hanapes, de plats ciselés. Enfin, au rang inférieur, se montraient les potiers d'étain, les oiseleurs, les marchands de chiens, les marchands d'épices, et au-dessous encore, tout à fait à l'écart, les juifs, reconnaissables à leur bonnet jaune, n'étalant rien, mais vendant de tout, trafiquant sur tout, et gagnant plus que tous les autres. Jean examina ses chefs-d'œuvre et ses richesses avec curiosité. Mais, une fois le premier émerveillement passé, il en revint à son dégoût pour les ruses qu'il voyait pratiquer aux marchands et pour l'humilité à laquelle il demeurait condamné. Cependant, le père Ambroise, en le quittant, lui avait recommandé de venir le voir à son couvent. Jean se le rappela et, profitant de son premier dimanche de liberté, il alla sonner à la porte des franciscains. Le père Ambroise reçut le jeune serf avec cette bonté aisée et caressante que donne l'habitude de consoler les affligés. Il le conduisit d'abord au réfectoire où lui fit prendre place au milieu des novices qui allaient se mettre à table, puis le repas achevé lui montra tout le couvent. Jean visita tour à tour les jardins cultivés par les moines eux-mêmes et dont les fruits étaient cités comme les meilleurs du pays. Les cloîtres où les frères se promenaient, les mains dans leurs larges manches et la tête baissée, rêvant à Dieu et au salut des hommes. La chapelle où leurs âmes se confondaient dans l'élan d'une prière commune. Leur cellule ornée d'un simple crucifix, symbole de dévouement et de délivrance. Le père gardien le conduisit ensuite à la bibliothèque, et là Jean tomba dans une véritable extase. Les manuscrits, rangés avec ordre et proprement reliés, étaient au nombre de plusieurs centaines. Ambroise apprit au jeune serf que c'était la propriété du couvent. Ils allaient passer aux salles d'études lorsque l'on vint avertir le père gardien que quelqu'un le demandait. C'était un homme qui avait la figure couverte d'un morceau d'étoffe et qui venait le consulter pour un cas de conscience. Jean descendit seul dans le préau où il trouva les novices. L'un d'eux le reconnut et l'appela par son nom. C'était le fils d'un des voisins de son père. Le jeune serf lui raconta son histoire et comment il se trouvait à Tours. « Oh Jean, mais que ne fais-tu recevoir dans notre couvent ?» reprit le novice lorsqu'il eut achevé. « Ici nous sommes hors du siècle et à l'abri de ses iniquités. Ici il n'y a ni noble ni vilain, nous jouissons de la liberté, de l'égalité devant Dieu. » Notre père gardien, lui-même, ne doit son autorité qu'au choix des autres moines, qui ont librement reconnu la supériorité de ses vertus et de son expérience. C'est le royaume du ciel, transporté sur la terre. Notre vie s'écoule en travaux utiles, en bonnes œuvres et en prières. Les seigneurs, qui tiennent tout esclave dans le monde, sont sur nous sans pouvoir. S'ils touchent à nos droits, nous pouvons les retrancher par l'excommunication de la société des chrétiens. Et s'ils nous attaquent, les fortifications de notre couvent nous rendent la défense facile. Il est vrai, dit Jean, mais cette liberté, vous la payez du plus grand bonheur que l'homme puisse connaître sur la terre. Vous ne voyez ni vos sœurs, ni vos mères. Vous ne pouvez-je pas choisir une femme, ni bercer dans vos bras un enfant? Ah non, je ne puis accepter un affranchissement qui me séparait à jamais de Catherine. Retourne au monde alors, Jean, dit le novice. Tu apprendras bientôt que plus on y forme de liens, plus on donne de prise à la douleur. Ceux qui sont nés serfs comme nous n'ont pas à choisir leur moyen d'affranchissement. S'ils veulent donner la liberté à leur intelligence et à leur âme, il faut qu'ils acceptent le sacrifice de leurs instincts terrestres. Le monastère est un premier dépouillement de l'enveloppe charnelle, une sorte d'initiation à la vie de l'éternité. Jean revint chez Maître Laurent, tout incertain et tout pensif. Malgré les paroles du jeune novice, la vie du cloître ne satisfaisait point complètement ses désirs. Il était à cet âge où l'on ne compte point avec la réalité, où tous les rêves semblent possibles, et l'expérience ne lui avait point encore appris que chaque être doit subir la loi de la société dont il fait partie. Mais s'il ne pouvait s'accoutumer à la vie du couvent, celle qu'il menait lui déplaisait encore davantage. Aussi le drapier ne tardait-il pas à s'apercevoir que son apprenti montrait peu de disposition. Jean ne pouvait d'ailleurs consentir à employer les ruses traditionnelles. Il vendait comme s'il eût été au confessionnal, disant « Ceci est bon, ceci est médiocre, ceci est mauvais ». Maître Laurent entrait parfois dans des accès de colère qui s'exprimaient par des injures de tout genre. Enfin, un jour que Jean avait échangé des monnaies anciennes contre des nouvelles, le drapier s'emporta jusqu'à le frapper. Le parti du jeune fut pris aussitôt. Il quitta la boutique, courut à la Loire, et apercevant une grande barque qui passait, il se jeta à la nage pour la rejoindre. Les mariniers le reçurent bien et consentirent à le conduire jusqu'à Blois où ils se rendaient. Leur barque transportait dans cette ville des canons et couleuvrines composées de plusieurs morceaux joints et cerclés comme des douvelles de tonneaux selon l'usage du temps. C'était la première fois que Jean voyait ces armes nouvellement en usage et il en fut singulièrement surpris. Le patron de la barque lui apprit que le roi avait 12 canons beaucoup plus forts, qu'il avait appelés les 12 pères. Leur longueur était de 24 pieds et il ne fallait pas moins de 30 bœufs pour traîner chacun d'eux. Il ajouta que l'on en fabriquait aussi de tout petits dont on se servait en les appuyant sur l'épaule d'un soldat, tandis qu'un autre placé derrière ajustait et mettait le feu. En arrivant à Blois, Jean prit congé du marinier et se dirigea vers Paris. Mais le peu d'argent qu'il avait fut bientôt épuisé et il dut s'adresser à la charité publique. Comme il traversait les faubourgs d'Orléans, il aperçut un enterrement qui sortait d'une maison de riche apparence. Le cercueil était porté par les pauvres de la ville et surmonté d'une effigie en cire. À quelques pas marchait un batelier, portant les habits du mort dont il imitait si merveilleusement le port, les gestes et la démarche, que la famille et les amis qui suivaient ne pouvaient s'empêcher de fondre en larmes. Jean, ayant appris que le défunt avait ordonné de compter 6 sous-bourgeois à chaque pauvre qui se présenterait le jour de son enterrement, alla recevoir sur le champ sa part du lait. Cependant, il continuait toujours à s'avancer vers Paris. Il arriva un soir au sommet d'une colline, d'où la vue n'apercevait au loin que des bruyères et des forêts sans aucun village, et il s'inquiétait déjà de passer ainsi la nuit à la Belle Étoile, lorsqu'il aperçut derrière un bouquet de pommiers sauvages une légère colonne de fumée. Il se dirigea de ce côté et arriva à une logette surmontée d'un clocheton. La porte était ouverte et il n'y avait personne au logis. Mais la nuit commençait à venir, le brouillard était froid. Jean se décida à attendre le maître. Celui-ci entra peu après en chantant. Il portait au cou un barillet dont il avait souvent tourné le robinet, à en juger par sa gaieté. À la vue de Jean, il poussa un bruyant éclat de rire. Vive Dieu, mais quel est l'étranger qui vient chercher abri dans mon palais ? S'écria-t-il. Jean lui raconta comment il était entré. Mais t'as donc pas reconnu la logette ? Reprit l'homme au barillet. Nullement, répliqua Jean. Et tu ne sais point où tu es ? Où suis-je donc ? Pour toute réponse, le nouveau venu écarta la peau de chèvre dans laquelle il était enveloppé et laissa voir une tartarelle à la ceinture de laquelle pendaient une cliquette et une tasse. « Un lépreux ! » s'écria le jeune homme en se levant d'un bond. « Mais ce n'est point ma faute si tu es entré !» reprit le ladre en riant. « Oh, je m'en vais !» dit Jean qui gagna la porte. Oh, « Veuillez me dire seulement si je suis loin de quelque village !» « À trois lieues, il faut traverser la forêt, ou tu seras immanquablement égorgé. »« N'importe, dit le jeune serf, je ne puis rester. »« Pourquoi ça ? As-tu peur des écailles qui me couvrent le visage et de l'ulcère qui me ronge les bras ?» demanda le lépreux. « On peut alors renoncer pour ce soir à ces agréments. » Et prenant un linge, il fit disparaître les traces hideuses dont il était couvert. Jean ne put retenir une exclamation. Ben, « Comme tu le vois, maladroirie est facile à guérir !» reprit le faux malade en riant. Ben, « Demain, j'en reprendrai pour faire ma tournée d'aumône. » Et comme Jean demeurait toujours sur le seuil, « Alors, ne vois-tu pas que tu n'as rien à craindre » reprit-il. « Allez, ferme cette porte et prends un escabelle. Je vais te faire voir comment vivent les ladres qui connaissent leur métier. » À ces mots, il avança une table devant le foyer. Il plaça un reste de langue fourrée, du porc frais, des fruits, et son barillet encore à moitié plein. Puis, forçant Jean à s'asseoir en face de lui, il commença à souper avec un appétit d'écolier. « Ainsi vous avez consenti à feindre une maladie qui vous sépare à jamais des vivants ?» dit Jean qui regardait le faux lépreux avec un étonnement mêlé d'horreur. « Bien oui, par la raison que cette maladie me donnait de quoi vivre, tandis que ma bonne santé me laissait mourir de faim, » répondit celui-ci. « Tel que tu me vois, j'ai été tour à tour, valet de meute, batelier, laboureur, courrier, mais toujours serf et comme tel misérable. J'ai eu l'idée à l'instant de me faire ermite, mais on me dit qu'il fallait pour cela être affranchi. Me décider alors à devenir ladre, puisque c'était le seul moyen de vivre à l'aise et selon sa fantaisie. Le mendiant de Paris m'avait appris à imiter les ulcères avec de la pâte de seigle et du mil, et je n'eus pas de peine à me faire passer pour lépreux. On me bâtit aussitôt une logette sur cette colline. On me donna une vache, un verger, une vigne. Le curé me revêtit d'un suaire, prononça sur moi l'office des morts, me jeta une pelée de terre sur la tête, puis on me laissa en promettant de me fournir chaque semaine tout ce dont je pourrais avoir besoin. Et on n'y a jamais manqué. Mais vous ne pouvez approcher les autres hommes ? « Sans doute, oui, il m'a défendu d'aller dans les réunions, de parler à ceux qui sont sous le vent, de boire aux fontaines, de passer par les ruelles, de toucher les enfants. Je vis isolé, j'inspire le dégoût et l'horreur, mais crois-tu que ce soit acheté trop cher, l'aisance et la liberté ? Oh, le ciel me préserve de les conquérir à ce prix, pensa Jean. Mais pourquoi faut-il vivre dans un monde où l'on doive les payer aussi cher ? Le repas achevé, le ladre étendit à terre une peau de chèvre sur laquelle le fils de Thomas passa la nuit. Le lendemain, il prit congé de son hôte et continua sa route vers Paris. À mesure qu'il approchait de la grande ville, les voyageurs devenaient plus nombreux. Ils rencontraient tantôt une troupe de gendarmes couverts de soie, de plumes et de broderies, tantôt de francs archers habillés de cuir, coiffés de salades ou casques sans cimier, et portant l'arc à la main et l'épée attachée derrière leur haut-le-chausse. Tantôt des bourgeois qui se rendaient pour leur commerce dans les villes voisines. Enfin Paris lui apparut avec son grand dôme de vapeur, ses clochers, ses toits pointus et ses mille rumeurs. Il fallut plusieurs jours à Jean pour parcourir les différents quartiers et voir les palais et les églises. À Notre-Dame, il lut la chronique des événements historiques attachés au cierge pascal. Il y admira sur une tour de bois une bougie qui aurait pu faire le tour de Paris et le banc sur lequel étaient déposées les chemises pour les pauvres. Il se vit ensuite montrer l'hôtel des Tournelles, l'hôtel Saint-Paul et la Bastille, placés tous trois l'un près de l'autre, puis le palais où se trouvait la fameuse table de marbre sur laquelle les clercs de la basoche représentaient les mystères. Mais ce qui l'émerveillait le plus, c'était de voir les rues pavées et bordées des deux côtés de boutiques appartenant au même métier. C'était de parcourir ces halles immenses où abondaient les marchandises de tous les pays, ces parcs de bestiaux distribués dans Paris et qui en faisaient par instants une campagne au milieu des palais, ces boucheries tellement distinctes et séparées que chacune ne pouvait vendre qu'une espèce de viande. De sorte que l'on achetait le porc à Sainte-Geneviève, le mouton à Saint-Marceau, le veau à Saint-Germain et le bœuf au Châtelet. Puis quel bruit de chevaux, de voitures, de voix, d'instruments. Le matin, les trompettes sonnaient du haut des tours du Châtelet pour annoncer le jour. À midi, c'étaient les crieurs de vin qui parcouraient les rues, un linge sur le bras, le broc dans une main et la tasse dans l'autre. Et le soir venait le tour des chandeliers, des oublieurs, des pâtissiers. Et que de distractions à toute heure pour le curieux! Ici, l'on pouvait voir les bourgeois de Paris s'exerçant par milliers au tir de l'arc ou de l'arbalète. Là, les écoliers jouant au jeu de la balle, de la crosse ou de la boule. Quelquefois, les enfants de chœur parcouraient la ville à la lueur des torches et déguisés en évêques. Plus souvent, les pèlerins, le chapeau suspendu au cou, les épaules couvertes de coquilles et le bâton rouge à la main, parcouraient la rue Saint-Denis en chantant des cantiques et racontant leurs aventures de la Terre Sainte. Mais ce qui charmait Jean plus que tout le reste, c'était les porches des églises, sous lesquelles étaient déposés, avant le sermon, les livres auxquels les textes devaient être empruntés, et les boutiques des libraires où étaient exposés des manuscrits que le passant pouvait lire à travers les vitres. Le goût de l'étude, déjà éveillé dans Jean par les leçons qu'il avait reçues de l'aumônier de Riez, s'accrut encore à la vue de toutes les ressources qu'offrait Paris. Il sentait d'ailleurs instinctivement que cette instruction était un moyen d'ennoblir la pensée et par suite un commencement d'affranchissement. Il résolut donc de profiter de son séjour à Paris pour suivre les cours des maîtres les plus célèbres et s'initier à des connaissances dont il n'avait étudié que les éléments. Il écrivit en conséquence à son père pour le tranquilliser sur son sort et lui fit connaître sa résolution. Un pèlerin qui devait passer par Riez fut chargé de sa lettre, car à cette époque les pèlerins étaient les messagers les plus sûrs et les plus ordinaires. Sans autre fortune que leur bourdon, leur chapelet et un morceau de la vraie croix, ils n'avaient à craindre ni les routiers, ni les grandes bandes si redoutables pour tout autre voyageur. Voici la lettre que Jean écrivait au vieux Thomas. « Cher et honoré père, vous êtes sans doute bien en peine de moi aujourd'hui, surtout si vous avez appris ma fuite de chez maître Laurent. » On n'aura pas manqué d'en parler comme d'une nouvelle preuve de mon indocilité. Mais je les fuis, mon père, que pour éviter un plus grand malheur. Le drapier oubliait que j'étais un homme racheté, comme lui, avec le sang du Christ, et il voulait me traiter comme l'intendant de Riez. Je l'ai quitté afin de ne pas lever la main contre celui dont j'avais mangé le pain. Ne m'accusez donc pas. Catherine, qui vous lira cette lettre, comprend bien, elle, pourquoi il m'est impossible de supporter les coups. Les coups sont pour les animaux, que l'on ne peut se faire entendre autrement, mais ils ravalent un homme au niveau de la brute. Pour tout être qui pense, il ne doit y avoir d'autre fouet que la parole et d'autre aiguillon que le devoir. Je suis aujourd'hui à Paris. Oh, ce seul mot de Paris vous dit beaucoup, mon père, et cependant, il ne peut vous dire la centième partie de ce qu'il contient. Paris est une ville où les maisons sont entassées comme les pierres dans la carrière, où les palais, les cathédrales, les châteaux forts sont semés aussi nombreux que les bluets dans vos blés. Là, il y a comme deux cités séparées par la Seine. D'un côté, tout est vêtu de noir, tout parle, gesticule, étudie. C'est le quartier des écoles. Et de l'autre, sont les habitants, les habits éclatants, les chaperons de mille couleurs, les litières et les cavalcades. C'est le quartier de la noblesse et de la bourgeoisie. Quoique la ville soit pavée, les pauvres seuls la parcourent à pied. Les marchands font leurs affaires à cheval, les médecins visitent leurs malades à cheval, les moines même prêchent à cheval. Il n'y a que les conseillers qui se rendent au palais sur des mules. Le nombre des charrettes est immense, mais elles font peu de bruit, celles qui transportent des vivres ayant seules le droit d'avoir des roues ferrées. Du reste, vous pouvez encore peut-être, à fort d'imagination, vous figurez ce qu'est Paris le jour. Mais c'est la nuit qu'il faut le voir, avec ses 1000 lanternes allumées devant les niches des saints, ses troupes de soldats parcourant les rues, et le grand murmure de la Seine sous ses immenses ponts. Puis à minuit, toutes les cloches sonnent à la fois, les cierges se rallument dans les églises, les prêtres y accourent, l'orgue retentit, et l'on croirait entendre les anges changer dans le ciel. Tout se tait ensuite jusqu'à matine, où le branle reprend, et où l'on voit accourir bedeaux, chantres, enfants de chœur. Les messes commencent, les prêtres vont dans les cimetières, à la lueur des torches, prier de tombe en tombe pour le repos de ceux qui sont morts. Enfin, le jour se lève, et alors le bruit de la ville qui se réveille couvre tous les autres bruits. Hier, j'ai vu dîner le roi. Le repas se composait de volailles, d'œufs, de porc et de beaucoup de pâtisseries dont j'ignore le nom. Mais ce qui faisait envie à voir, c'était le dessert. Un bourgeois qui se trouvait près de moi m'en a nommé tous les plats. Il y avait des confitures servies, du sucre blanc, du sucre rouge, du sucre orangeat, de l'anis, de l'écorce de citron et du Manu Christi. Et chaque fois que le roi prenait son gobelet, un huissier criait « Le roi boit !» et tous les assistants répétaient « Vive le roi !» Le même bourgeois qui m'avait nommé les sucreries composant le dessert m'apprit que le service de la bouche occupait au moins 200 personnes. Il y a les maîtres-queues, les potagers, les hâteurs, les valets tranchants, les valets de nappe, puis les serlots, les tournebroches, les cendriers, les souffleurs, les galopins. On fait à la cour 5 repas, comme dans certains châteaux. Le déjeuner d'abord, le repas de 10 heures ou décimé, le second décimé, le 3 souper, et enfin le repas de nuit ou collation. Mais je m'oublie dans ces détails, à quoi bon vous parler de toutes ces choses? Ah, que n'êtes-vous plutôt ici pour les voir avec moi? Que ne puis-je conduire Catherine au palais royal, où se vend tout ce qui part une femme, à la foire Saint-Laurent, au Landy surtout, où la plaine Saint-Denis est couverte d'un côté de livres, de parchemins et d'écoliers, et de l'autre des toffes d'orfèvrerie de tout le beau monde qui habite aux environs de l'hôtel Saint-Paul. Pauvre Catherine, hélas, je ne la reverrai de longtemps sans doute, car je suis résolu à poursuivre ici mes études et à prendre, si je le puis, mes degrés. Quoi qu'il arrive, je ne lui dis point de penser à moi. Le cœur de Catherine n'oublie rien. Les affections qui mûrissent n'en peuvent plus sortir. Qu'elle continue donc à m'aimer comme je l'aime, car c'est pour elle, c'est pour vous, mon père, que je travaille et que je vis. Adieu. Pensez à moi dans vos prières et gardez-vous bien de dire où je suis. Mais si Raoul serait capable de me faire saisir ici et ramener à son domaine, dont je fais partie comme les arbres mêmes qui y croissent. Puisse Dieu vous prendre dans sa miséricorde et moi avec vous. Jean. Cette lettre, une fois écrite et partie, Jean se trouva plus tranquille. Il se hâta de se présenter au lieu où se donnaient des leçons, portant, comme tous les écoliers, d'une main ses livres, de l'autre la botte de paille sur laquelle il devait s'asseoir. Mais lorsqu'il voulut entrer, on lui demanda la cédule par laquelle son seigneur l'autorisait à suivre les cours de l'Université de Paris. Jean demeura confus et muet. Nul serf ne peut entrer aux écoles sans permission de son seigneur, lui dit le contrôleur chargé d'inscrire les étudiants. Ben, si ce n'est pas assez d'être les maîtres de notre corps, murmura Jean, il faut qu'il le soit de notre intelligence. Et il se retira, le cœur gonflé d'amertume. Un plus long séjour à Paris lui devenait inutile. Il délibérait déjà en lui-même s'il ne retournerait point à son village, quoi qu'il pût lui arriver, lorsqu'un soir, les portes de la ville furent fermées avec grande alarme. Toutes les lumières qui brûlaient dans les rues près des niches des saints furent éteintes, et l'on donna ordre aux habitants de tenir devant chaque porte un seau d'eau et une chandelle allumée. Les Anglais avaient descendu la Seine et venaient attaquer Paris. On aperçut au matin les feux de leurs avant-postes. Bientôt, le gros de l'armée parut et campa sur les deux rives. Cependant, tout ce qu'il y avait dans la ville d'hommes de guerre s'était armé. Les bourgeois eux-mêmes accouraient avec de grands cris. On transporta sur les remparts des pierres pour jeter sur les assaillants et des sacs de terre pour se mettre à l'abri de leurs traits. Et peu à peu, la première terreur fit place à la confiance, puis au dédain. On cria qu'il fallait prévenir l'ennemi en l'attaquant dans son camp. On réunit les hommes d'armes, les plus déterminés bourgeois se joignirent à eux, et une porte fut ouverte pour que la troupe pût marcher aux Anglais. Jean, qui avait trouvé une hallebarde perdue dans la confusion, suivit cette troupe. Ils arrivèrent bientôt devant les ennemis qui les avaient aperçus et s'étaient préparés à les bien recevoir. Les archers anglais s'avancèrent d'abord contre le corps des bourgeois qui marchaient un peu en avant. Mais, contre toute attente, ceux-ci tinrent bon et, bien qu'il en tombât un grand nombre, ils continuèrent à s'approcher du camp. Les gendarmes, voyant cela, ne voulurent point se montrer moins hardis et chargèrent à bride avalée sur l'ennemi. Mais, soit qu'ils eussent mal calculé l'espace, soit qu'ils tinssent peu de compte des communes, comme à Poitiers, ils heurtèrent une partie de la troupe des bourgeois qu'ils culbutèrent sur les archers. Il en résulta un désordre dont ceux-ci profitèrent et qui fut encore augmenté par l'arrivée de la cavalerie anglaise. Cependant, les gendarmes, qui avaient évidemment compromis le succès par maladresse ou mauvais vouloir, s'efforçaient de racheter leur faute par la bravoure. Entraîné dans la mêlée, Jean avait été renversé plusieurs fois, mais s'était toujours relevé et plus acharné au combat. Il venait d'échapper à la flèche d'un archer, lorsqu'il se trouva en face d'un chevalier anglais qui leva son épée pour le frapper. Mais le jeune serf ne lui en laissa pas le temps, et lui enfonça sa hallebarde au défaut de la cuirasse. Le chevalier tomba. Jean releva son épée, saisit la bride du cheval, sauta en selle et se précipita de nouveau au combat. Jusqu'alors, le résultat était demeuré incertain. Mais l'arrivée d'une nouvelle troupe sortie de la ville décida la fuite des Anglais. Jean les poursuivit quelque temps avec les gendarmes qui n'avaient point perdu leurs chevaux, mais enfin, la nuit arriva, et se trouvant presque seul, il tourna bride vers Paris. Il suivait les prairies au petit pas lorsque des gémissements étouffés le frappèrent. Mettant aussitôt pied à terre et se dirigeant vers l'endroit d'où les plaintes semblaient venir, il trouva un chevalier étendu sur le sol sans mouvement. Jean le souleva avec effort, déboucla son armure et réussit à lui rendre le sentiment. Le chevalier lui apprit alors qu'ayant voulu poursuivre les ennemis, quoique blessé, la force l'avait abandonné en chemin et qu'il était tombé évanoui. Prenant Jean pour un homme d'armes, il le pria de lui céder son cheval, lui indiquant la maison qu'il habitait à Paris et proposant de lui laisser en gage son éperon d'or. Jean refusa le gage, mais donna le cheval en disant qu'il irait le réclamer, et le gentilhomme partit. L'essai que venait de faire le jeune serf lui avait appris qu'il ne manquait point de courage, et le succès lui avait laissé une exaltation orgueilleuse qui lui parut aussi agréable que nouvelle. Il aimait l'espèce d'égalité que le combat établit entre tous les combattants, la terrible fierté laissée à chacun, ses émotions successives de terreur, de joie ou de fierté. Dans une société d'ailleurs où la force avait toujours le droit de son côté, l'homme de guerre ne devait-il pas être le plus indépendant et le plus heureux? Ces idées fermentèrent dans son esprit toute la nuit. Le lendemain, lorsqu'il se présenta à la demeure du chevalier, celui-ci lui demanda ce qu'il désirait en récompense du service qu'il lui avait rendu. « Prendre rang parmi les hommes d'armes du roi, » répondit Jean. « Mais tu serfs, ou homme libre ?» demanda le gentilhomme. « Oh, serf, messire, alors la chose est impossible. Le serf doit son rang à son seigneur et ne peut en disposer sans que celui-ci y consente. Toujours, pensa Jean, quittant le chevalier, toujours le même obstacle. Impossible d'échapper à ce vice de naissance qui me marque au front comme Caïn. Oh, c'est trop attendre, brisons cette chaîne à tout prix. Et le soir même, il quittait Paris, monté sur son cheval de guerre. Il traversa d'abord la forêt de Bondy, pleine de charbonniers et de boisseliers, et comme il allait en sortir, il rencontra une troupe de gens conduits par un curé qui voyageait sur deux chariots traînés par des ânes. C'étaient des confrères de la Passion qui parcouraient la France en jouant des mystères. Jean lia la conversation avec le curé, auquel il raconta une partie de ses misères. Celui-ci, qui considérait la monture du jeune homme d'un œil d'envie, lui proposa tout à coup d'entrer dans sa troupe. Le rôle du péché mortel dans la pastorale intitulée « La bonne et la mauvaise fin » se trouvait précisément à prendre. Il l'assura que les frères de la Passion, outre qu'ils faisaient une œuvre agréable à Dieu en représentant leur mystère, vivaient dans une liberté et dans un bien-être dont aucune autre profession ne pouvait donner idée. Jean fut persuadé. Il prit place dans l'un des chariots auxquels il laissa atteler son cheval et continua son chemin avec la troupe de Maître Chouard. Malheureusement, les promesses de ce dernier étaient comme ses pièces. Sonitus et vacuum, sed praeterea nihil. Du son et de l'air, mais au-delà, rien du tout. Jean ne tarda point à s'apercevoir du mépris mérité dont ils étaient partout l'objet. À cette époque de rénovation, le besoin de changement et d'aventure avait poussé hors du logis tous ceux auxquels le classement vigoureux de la féodalité est devenu insupportable. C'était ainsi que s'étaient formées les compagnies de partisans qui couvraient la France, les bandes de pèlerins qui le rencontraient sur toutes les routes, et enfin les troupes de comédiens qui, sous différents noms, commençaient à exploiter les moindres villes du royaume. Celle que dirigeait le curé Chouart n'était qu'une des rames de clercs endettés, d'écoliers compromis, de banqueroutiers en fuite, qui eussent également fait partie d'une bande de routiers. Lui-même n'en avait pris la direction que pour se livrer plus facilement à tous les écarts qu'entraînait la vie de bohémien qu'il menait. Au bout d'un mois, les mauvaises recettes, les frais de toute route et les orgies avaient épuisé toutes les ressources de la troupe. Leurs chariots et les attelages furent saisis par un aubergiste de Troyes pour payer ce qui lui était dû. Notre héros voulut en vain réclamer son cheval, sous prétexte qu'il n'appartenait point à la troupe. L'aubergiste ne voulut rien entendre. Il s'en prit alors au curé Chouard, le menaçant de le conduire devant les juges. Mais Chouard lui fit comprendre qu'il s'il en venait à cette extrémité, il serait forcé de dire son nom, son état, son pays, et que l'on ne manquerait point de le faire conduire à Riez, comme serf ayant fui le domaine du seigneur. Jean sentit qu'il avait raison et se tut. Heureusement que le même jour, un voyageur qui habitait l'auberge et avait vu son embarras vint le trouver. « Je suis libraire, dit-il, et j'entretiens plus de 50 copistes pour mes livres, car, malgré le nouvel art venu d'Allemagne, les gens de naissance ou de la cour préféreront toujours une copie à un imprimé. Ceux-ci d'ailleurs ont encore besoin d'écrivains pour les majuscules et les titres de chapitres. Je sais que vous maniez la plume avec dextérité, car j'ai vu les affiches de vos spectacles. Suivez-moi et vous gagnerez ce que gagnent vos compagnons, c'est-à-dire de quoi vivre en chrétien. Réfléchissez et demain vous me ferez connaître votre décision. » Le lendemain, Jean suivait son nouveau maître sur la route de Besançon.